Classique. La matinale de Radio Classique avec David Abiker.
Avec Ruth Elkrioff.
Oui.
Je vous ai russifié, il n'y a aucune raison.
Il n'y a pas de Z.
Ruth Elkrioff, éditorialiste à LCI. Et Marc Lambroff, on va faire un hein, Marc Lambron, de l'Académie française. Bon, je vous taquine et je profite de mon petit coup de fatigue. Alors, on va commencer avec un sujet grave, puisqu'il déstabilise, disons, une société entière. C'est une épidémie pour certains scientifiques, c'est une épidémie d'écran qui nuit au sommeil, qui nuit à la concentration, qui nuit aux apprentissages, qui nuit à la vie de famille, qui nuit à la socialisation. Bref, bon, j'ai parlé des côtés négatifs des écrans. Le président de la République s'est vu remettre hier un rapport d'experts intitulé poétiquement et proustement, si j'ose dire, « La recherche du temps perdu ». C'est un rapport de plus sur les écrans ou c'est bien que le président se fasse son idée avec un rapport d'experts pour lui ?
C'est une étape et une référence, bien sûr. Et puis c'est un message à la société et aux parents. Mais effectivement, je suis un tout petit peu sceptique parce qu'en réalité, oui, on voit bien l'effet délétère. Mais le problème, c'est évidemment les parents. Et j'ai envie de dire nous-mêmes, regardez, si on regarde et on décrit à nos auditeurs exactement dans quel état nous sommes, nous avons 2-3 écrans les uns les autres partout sur la table de ce studio. Et les parents ne sont pas différents. Donc c'est une question d'éducation des parents et de volonté, de force, hein, parce que ce n'est pas facile. Et puis, il y a des effets aussi positifs à certains écrans. Donc, ça n'est pas seulement l'écran par définition, c'est l'interactivité, c'est le contenu de ce qui passe par l'écran. Mais les règles sont assez strictes, assez dures dans ce rapport. Hein. Interdiction au moins de 13 ans, interdiction de téléphone portable au moins de 11 ans, interdiction d'Internet au moins de 15 ans, si j'ai bien compris.
Des réseaux sociaux. Non éthiques.
D'accord, voilà. Donc c'est quand même un peu moins dur. Bon, à l'école, aujourd'hui, les écrans sont très présents. Et c'était extrêmement à la mode. Je me souviens, lorsque François Hollande a fait distribuer des iPads dans toutes les écoles de
dans
France.
Dans les collectivités territoriales.
Exactement.
Chaque département distribuait ses tablettes.
Voilà, et c'était extrêmement bien vu. Bon, et c'est un revirement intéressant, fort, mais qui mettra du temps à infuser et qui demande surtout aux parents à travailler sur la question.
Marc Lambron, comment passer de la recherche du temps perdu au temps retrouvé et libéré par les écrans ?
Pas sympa. Hein.
Eh bien. Moi, je verrais ça plus globalement dans les logiques de décroissance. Alors là, ça serait une sorte de décroissance numérique. Si vous voulez, une logique de diète, moins de bits, BITS. Et vous aurez remarqué aussi que, par exemple, il y a d'autres propositions. Najat Vallaud-Belkacem qui souhaiterait que, mais ça vaut aussi pour les adultes, de limiter à 3 gigaoctets hebdomadaires l'usage de l'Internet. Vous savez que le gouvernement britannique prépare une loi qui interdirait la vente de tabac aux citoyens nés après 2009, et ce, à vie. C'est-à-dire extinction totale du tabagisme.
Tout en continuant d'en vendre à ceux qui sont nés avant.
Et vous savez que Jean-Marc Jancovici, bel esprit, propose de limiter à 4 le nombre de voyages en avion au cours d'une existence. Alors, toutes ces mesures sont sans doute salubres. À mon avis, il y a deux problèmes. D'abord, il y a ce qu'on appelle l'effet de cliquet, c'est-à-dire que quand on entre dans un tourniquet, il est difficile de revenir en arrière. C'est toute la logique, d'ailleurs, qui empoisonne partiellement la France, des avantages dits acquis, comme s'ils étaient éternels et non réductibles, non rapportables. Et puis, ces mesures, elles sont évidemment contournables, c'est-à-dire que ça procède d'une forme de puritanisme dans un univers qui est de plus en plus mafieux. On pourrait aller vers des logiques de prohibition avec un P majuscule.
Comme en Chine, en fait.
Comme
en Chine, il y a une réglementation.
Ou comme aux États-Unis dans les années 20. Donc, ce que ça augure, à mon avis, c'est le retour de toutes sortes de bootleggers, pour le dire en anglais. C'est-à-dire de trafiquants et de...
Quel âge, à peu près ?
Et de fraudeurs. Les bootleggers de tout âge. Ils ont besoin de quelques guetteurs, comme on sait, donc dès l'adolescence.
C'est-à-dire qu'on consultera son écran en clandestin à 13 ans, quand on sera privé de réseaux sociaux. Enfin, vous imaginez qu'en fait, on arrivera à faire le mur numérique.
C'est-à-dire que, pour parler encore français, le darknet prospérera.
Est-ce que vous êtes d'accord quand même sur ce terme d'épidémie dont parlent certains experts, certains scientifiques, sur le mal que peuvent faire les écrans et leurs consultations effrénées, quels que soient les contenus, à la fois sur les parents, sur les enfants, sur les individus.
La question, ce n'est pas l'épidémie, c'est de savoir si la maladie est curable. Il y a des épidémies avec des maladies létales, et puis il y a des épidémies avec des maladies qu'on peut soigner. Alors, quelle est la posologie anti-écran? Et est-ce que Marcel Proust peut suffire? Ça veut peut-être dire ça aussi. Lisez Sodome et Gomorre, lisez La Prisonnière, et lisez Le Temps Retrouvé.
Routel Krief, vous avez vu, vous, journaliste politique, éditorialiste, les écrans et les réseaux sociaux dérégler le temps politique et le comportement des politiques. Vous les avez vus physiquement. Moi, j'étais frappé de beaucoup d'images de Gabriel Attal, 33, 34 ans, qui marchait avec des gens qui l'entouraient, directeur de cabinet, quémandeur, solliciteur, tout ce que vous voulez. Et il ne les regardait pas, il ne regardait même pas devant lui, il regardait son téléphone et il marchait. Et les autres suivaient en regardant aussi leur téléphone.
Mais dire que c'est un instrument d'influence aujourd'hui est un truisme. Et dire que les politiques utilisent les réseaux sociaux et du coup regardent sur les écrans l'impact de leurs déclarations et la nécessaire réaction pour garder le fil avec un certain public. Parce qu'effectivement, on est là sur une génération. Donc je suis d'accord avec Marc, c'est pour ça que, est-ce que c'est curable? Parce que c'est toute une génération qui est biberonnée aux écrans. Et encore une fois, nous-mêmes, même si on n'est pas né avec, même si on s'y est fait, même si on s'y est mis, on est dans cette addiction aujourd'hui. Et donc, moi, je ne veux pas jeter l'opprobre sur les autres, j'ai envie de dire... Qu'est-ce que je fais moi? Comment est-ce que je me désintoxe?
C'est aussi une augmentation sensorielle, parce qu'autrefois le téléphone sollicitait seulement l'ouïe et l'oreille, aujourd'hui il sollicite la vue et l'œil.
Bien sûr, et l'image, le dialogue, oui, c'est une addiction, et une addiction extrêmement forte, extrêmement puissante, qui ne pourrait sans doute être remplacée que par une autre addiction que je ne connais pas encore.
On parle des politiques, parlons de Raphaël Glucksmann, tête de liste aux européennes pour le Parti Socialiste. Vous avez des infos là-dessus? Enfin, parce qu'on disait, c'est maintenant dans un mouchoir. Oh là là. C'est maintenant dans un mouchoir de poche avec Valérie Ayé, la candidate d'En Marche.
Alors on est à un peu moins autour de 40 jours avant le premier, enfin le seul tour d'ailleurs, attention, des élections européennes, parce que c'était une élection à la proportionnelle et à un seul tour qui se déroulera le 9 juin. Je précise tout ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas et c'est tout à fait normal. Et effectivement, les sondeurs s'interrogent pour savoir s'il va y avoir un croisement des courbes, comme on dit, c'est un peu technique, entre Valérie Ayé, la candidate de la majorité, et d'Emmanuel Macron, et Raphaël Glucksmann, place publique, Parti Socialiste. Mais ce qui est intéressant, et ce que remarquent les sondeurs, notamment Frédéric Dabi, le directeur général de l'IFOP, qui analyse de près ce phénomène, c'est qu'il bénéficie de deux sources de report, au-delà d'un noyau socialiste qui s'est effrité quand même ces dernières années, c'est le moins qu'on puisse dire, les déçus d'Emmanuel Macron, qui sont, selon les sondages, autour de 15 à 17% par rapport à l'électorat de 2022, ce qui n'est pas négligeable, hein, ce qui est important. Et puis surtout, des déçus de Jean-Luc Mélenchon. Et là, on va beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'on est à peu près autour d'un gros tiers. 34% selon un sondage Ipsos Le Monde, 34% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon de 2022 qui se reporteraient sur Raphaël Glucksmann, et 27% selon 34% selon IFOP et 27% selon Ipsos, donc autour des 30%. Et puis aussi des déçus des écologistes, c'est-à-dire autour dans l'électorat de Yannick Jadot de 2022, pareil, autour d'un tiers. Donc effectivement, c'est une candidature intéressante parce qu'elle ramène un peu à elle un certain nombre d'orphelins de partis existants.
Marc Lambron, il y a quelques années, on parlait du cadavre à la renverse, du cadavre du Parti Socialiste.
Oui, vous voulez dire du résurrection? Non, pour moi, la question, ça serait pourquoi lui? Et comme nous sommes le 1er mai, nous avons du loisir, je vous ferai volontiers une carte du tendre politique.
Allez-y.
De Raphaël Glucksmann. Il se trouve que j'ai connu trois générations de Glucksmann et que je peux vous en parler rapidement. La grand-mère... maternelle, Jeannette Colombel, était une agrégée de philosophie qui était professeure de Cagnes à Lyon et intime de Jean-Paul Sartre et cofondatrice du Secours Rouge. Sa fille, Françoise, dite Fanfan, épouse André Glucksmann. Singulier personnage, car c'est un maoïste, mais qui a été assistant de Raymond Aron et qui a travaillé comme lui sur Clausewitz, c'est-à-dire sur l'art de la guerre. Et il devient vers 77 nouveau philosophe.
Avec BHL.
Un livre capital, La cuisinière et le mangeur d'homme. Un porte-parole de l'antisoviétisme. Et il se ralliera pour finir à Sarkozy en 2007. Raphaël, maintenant, donc troisième génération. Je dirais qu'il prolonge ce mouvement, cette pulsion anti-autoritaire, en payant de sa personne. Il se trouve que je le rencontre en 2011 à Tbilissi, où il est conseiller du président Saakashvili. Et ce, 3 ans après l'opération poutinienne contre la Géorgie, à laquelle Sarkozy, d'ailleurs, s'était opposé avec un certain résultat. Et puis de là, il va aller travailler en Ukraine auprès de Vitali Klitschko, le maire de Kiev. Conclusion, je pense que, pourquoi lui ? Il ressuscite une certaine, ou il ravive une certaine gauche de combat. Il est plus Malraux que Judith Butler dans ses références. Il n'a guère de complaisance pour les chipotages identitaires wokistes. Il a un sentiment européen très fort parce qu'il a été trempé dans l'expérience antitotalitaire qu'il a vécue en première personne. Et en cela, il est fidèle à l'ombre du père. Et enfin, il y a une composante idéaliste qui l'exonère des chicayas internes au PS qui ont coûté si cher à François Hollande. Et pour finir, il a encore un profil d'homme neuf comme Macron en 2017. Il n'a que 44 ans, avec dans sa gauche une injection de réalisme, et j'oserais dire de réalisme aronien, comme son père qui avait... Donc, c'est peut-être un oxymore, mais une gauche aronienne est peut-être possible. Alors, avec Raphaël Glucksmann.
La question, c'est est-ce que c'est un one-shot, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est une élection européenne dans laquelle il y a une forme de liberté de vote, de vote plaisir, de vote différent, et est-ce que c'est parce qu'il est totalement cohérent sur sa position européenne, comme vient de l'expliquer brillamment Marc, et qu'il a effectivement aucun lien apparent, en tout cas, avec toutes les négociations NUPES et toute la médiocrité de cette alliance, ou est-ce que c'est une forme de tremplin pour après, et est-ce que grâce à lui ressusciterait cette gauche un peu républicaine et morale qu'on a connue et qui ne ferait plus et qui ne ferait plus avec tous ces compromis de bas étage et ce cynisme auquel on assiste du côté notamment de Jean-Luc Mélenchon. Là, j'ai un doute, parce que je ne sais pas ce qui se passe le 10 juin, si vous voulez. Je ne sais pas si l'opportunisme électoraliste ne reprend pas ses droits. On verra le score de Jean-Luc Mélenchon. Apparemment, la stratégie agressive, la manière d'importer le conflit au Proche-Orient, ces violences, ces mots très violents sur le président de l'Université de Lille ou autre, déplaisent à une partie de son propre électorat, c'est net. Qu'est-ce qui se passe après ? Je ne suis pas si sûre que ça va aller.
En tout cas, il y a une sorte de...
Un dernier mot,
il y a un bal des fantômes, parce qu'il y a des revenants qui se tiennent avec des paniers sous l'arbre, ils gaulent les fruits, et ils attendent de voir si les fruits vont tomber dans le panier socialiste, et vous avez là M. Hollande et quelques autres et qui sont à l'affût. Mais est-ce que les raisins seront trop verts ? C'est plutôt le temps des cerises.
Vous qui êtes Jean de Plume, Routel-Krieff et Marc Lambron, je voudrais qu'on termine en écoutant un homme qui dit sa difficulté d'écrire à chaque livre. Paul Auster, disparu hier et qui s'exprimait il y a quelques années sur le dur métier d'écrivain.
Même si on a écrit un livre, ou deux, ou trois, ou quatre, ça ne vous aide pas à faire le prochain. Parce que chaque fois qu'on écrit, on doit apprendre comment écrire ce livre et pas les autres livres. Et c'est toujours une sorte d'apprentissage. Peut-être les gens ne comprennent pas ça. Rien n'est donné. C'est toujours une quête, une lutte très pénible parfois.
À chaque livre, on réapprend à écrire. Un mot sur cet écrivain, mais vraiment un mot, on n'a plus de temps, mes amis. Et pour se dire au revoir, on va lancer un musicien qui aimait l'Amérique comme Auster, américain, aimait la France. Dvorak est mort il y a 120 ans exactement.
Non, c'est l'écrivain du hasard, c'est l'écrivain qui raconte, c'est l'écrivain du récit. avec un physique de star de cinéma, adorant la France, et ça me touche beaucoup.
Moi, je dirais qu'à chaque écrivain de cette stature qui meurt, c'est une vision du monde qui disparaît du monde. Donc, nous sommes plus pauvres.